C'est une joie pour moi de vous revoir. Je vous transmets les salutations de Madeleine. Elle exerce l'hospitalité à la maison. Et puis, bien sûr, les bonnes salutations fraternelles de vos sœurs, frères et sœurs de la Riviera. Le titre de mon partage est le suivant, la croix incontournable. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut, sur cet infâme bois, pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où, parmi les élus, dans le ciel, je pourrai l'exalter. Ces paroles expriment une réalité spirituelle bénie, semblable à la confession de foi qu'Ésaïe 53 représente pour moi et qui m'accompagne depuis le jour de mon baptême en juillet 1962. C'est à cette occasion que j'ai entendu ce chant pour la première fois, et mon cœur et mon âme ont été et sont toujours émus et touchés par le message de ce chant. Je mentionne maintenant deux textes en relation avec l'incarnation de notre cher Sauveur et Seigneur, et je vous prie simplement de l'écouter. Lors de son entrée dans ce monde, Christ a dit, et nous ne savons pas à quel moment il l'a exprimé à son Père, je reviens au texte, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu as préparé pour moi un corps. Tu n'as pas pris plaisir ni aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens pour faire ta volonté et accomplir ce qui est écrit à mon sujet dans le rouleau du livre, car c'est bien de moi qu'il s'agit dans l'Écriture. » Hébreux 10. Voici le deuxième texte qui souligne que la Trinité, soit Père, Fils et Saint-Esprit, est à l'œuvre, et là je cite Hébreux 9, 14, « Poussé par l'Esprit éternel, Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut et sans tache. » L'apôtre Jean nous décrit sobrement l'épisode du calvaire dans son évangile. Je cite Jean 19, « Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. » À l'époque romaine, écrit Tozer, celui qui portait sa croix et s'engageait sur le chemin qui menait à son exécution, n'en revenait jamais. Il ne s'attendait pas à une réorientation de sa vie, ni à un sursis. Il savait que sa vie prenait fin à la croix. La croix ne cherchait pas à rester en bon terme avec ses victimes. Elle frappait cruellement et durement. Quand elle avait achevé son œuvre, l'homme avait cessé d'exister. La race d'Adam se trouve sous la sentence capitale. Dieu ne peut approuver aucun des fruits du péché. En venant à Christ, nous n'élevons pas notre ancienne vie à un niveau plus élevé. Nous l'abandonnons à la croix. Dieu sauve l'individu en le supprimant, puis en le ressuscitant pour une vie nouvelle. Fin de citation de Tozer. Alors, en relation avec la croix de Christ, nous ne parlons ni n'entendons souvent parler de la souffrance de Dieu. Nous devons reconnaître que le Père et le Fils souffrent, quoique différemment du choix qu'ils ont fait de se livrer. Le Fils souffre de mourir et le Père souffre de la mort de son Fils. La douleur du Père est ainsi du même poids que la mort de son Fils. À la perte du Père par le Fils correspond la perte du Fils par le Père. À cause de nous et dans notre intérêt, Dieu a réellement fait que Christ sans péché est devenu péché. Le Dieu qui a refusé de nous tenir compte de nos péchés en a tenu compte à Christ. L'absence totale de péché en lui désignait lui seul pour porter nos péchés à notre place. Et il y a de quoi s'émerveiller dans cet échange entre Christ sans péché et les pécheurs que nous sommes. Ailleurs, Stott écrit ceci. En envoyant son propre Fils, le Fils unique du Père de toute éternité, Dieu n'envoyait pas un être créé, une tierce personne, mais il se donnait lui-même. Dieu se donnait lui-même. Ainsi se traduit l'amour de Dieu. C'est nous qui avons péché et c'est lui qui meurt pour nos péchés. C'est ce qu'affirme le passage paulinien de 2 Corinthiens 5, 19 et 21 que je cite. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous tous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché ou sacrifice d'expiation, la référence Lévitique 4:3, pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, revêtus de la justice de Dieu. Alors, fin de citation, on peut affirmer les deux réalités que voici. Dieu souffre et se donne dans un autre lui-même, et Christ est mort pour nous parce que Dieu nous aime. Voilà ce qu'est l'amour saint, subir sur soi-même la sanction que l'on a infligée à cause du péché. Nous sommes totalement incapable de nous faire une idée de l'angoisse, de l'effroi et de la souffrance de celui qui, étant sans péché, a dû être fait péché, et qui, étant immortel, a néanmoins dû mourir. Et dans le même fil, le commentateur Cranfield écrit ceci, « À cause de sa miséricorde, Dieu voulait pardonner aux pécheurs, mais il fallait que sa miséricorde fût authentique. Aussi voulait-il leur pardonner en étant juste, c'est-à-dire en n'excusant pas leurs péchés. C'est pourquoi il a décidé d'endosser lui-même, dans la personne de son Fils, tout le poids de la juste colère que les pécheurs méritaient. » Cité par Stott également dans son ouvrage « La croix de Jésus-Christ ». C'est le mystère insondable de l'expiation et de l'autosubstitution. C'est un mystère devant lequel nous ne pouvons que nous incliner et adorer. Je le redis, Christ est mort parce que Dieu nous aime. Et la croix de Christ est le seul acte de Dieu qui pouvait détourner le jugement que nous méritions tous. S'adressant à un moine en détresse à cause de ses péchés, le réformateur Luther lui a écrit ceci. « Apprends à connaître Christ et Christ crucifié, apprends à chanter et à lui dire « Seigneur Jésus, tu es ma justice et moi je suis ton péché. Tu t'es revêtu de ce qui était mien et tu m'as revêtu de ce qui était tien. Tu es devenu ce que je n'étais pas, afin que je devienne ce que je n'étais pas. » Je redis cela. Seigneur Jésus, tu es ma justice, et moi je suis ton péché. Tu t'es revêtu de ce qui était mien, et tu m'as revêtu de ce qui était tien. Tu es devenu ce que je n'étais pas, afin que je devienne ce que je n'étais pas. Mais quelle invitation, quelle prière concise, magnifique, elle contient le message de la croix. Quel hommage rendu à Christ notre justice, notre paix, notre sanctification, notre sagesse. Le fait que la vie éternelle auprès de Dieu est accordée à quiconque croit, mais la mort éternelle loin de Dieu pour quiconque rejette la foi en Christ souligne l'importance unique et éternelle de la foi en son sacrifice salvateur. À l'heure où quiconque se repent et ajoute foi au sacrifice de Christ sur la croix, cette personne est mise au bénéfice de ce que promet la Bible, parce que l'œuvre de Christ au calvaire, c'est le lieu spirituel de toute réconciliation, du pardon initial. C'est le lieu des pardons, car c'est toujours à la croix de Christ qu'il nous faut revenir au long de notre vie. C'est le lieu de l'expiation, de réception de l'Esprit de Dieu et de la vie éternelle. J'ai pensé au brigand sur la croix. Et vous savez par cœur la promesse que Christ lui fait avant de mourir. C'est le lieu de toute purification, de la substitution, de la rédemption, de la régénération, de la sanctification, de la justification, de toute glorification. C'est le lieu de libération et de liberté, la croix du calvaire. C'est le lieu de larmes et de repentance et de joie. Un lieu d'espérance absolue, de paix du cœur, de découverte d'une famille spirituelle, etc., etc. Alors l'annonce, l'appropriation, le vécu de toutes ces réalités ne doivent pas occulter le fait que notre marche avec Christ s'accompagne de quoi ? Vous pourriez en parler, chacun de vous, avec abondance. S'accompagne de tribulations, de souffrances, de moqueries, de mépris, de persécutions de tous ordres, de rejets, d'abandon, de déceptions multiples. C'est le chemin du Maître. Et il n'omet pas de dire aux siens, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais prenez courage, moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Et puis, juste avant son ascension, pour remonter à la droite de son Père, pour prier pour ses enfants, il assure et rassure les siens par une promesse sans comparaison, sans concurrence, que voici, « Soyez-en persuadés, leur dit-il, je suis moi-même avec vous chaque jour. » Alors, à l'évidence, toutes ces réalités, toutes ces promesses n'auraient pas de sens ni ne tiendraient debout sans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En ressuscitant son Fils bien-aimé, Dieu met le sceau de son approbation sur le sacrifice de son Fils bien-aimé. Aux horreurs d'une nuit profonde succède le jour le plus beau, dit la phrase d'un cantique. Et c'est en une matinée comme celle-ci que le Christ apparaît aux siens, et cela pendant 40 jours. Il n'apparaît pas au monde incrédule, mais aux siens. Et ce n'est pas à ses premiers disciples des hommes qu'il apparaît en premier. Mais c'est aux femmes qui l'ont fidèlement accompagné et servi depuis la Galilée. C'est à elles tout premièrement qu'il confie le message de sa résurrection. Matthieu 28, verset 7. Il s'agit de Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons, et Marie, la mère de Jacques et Jose, Jeanne, et Marc 16, verset 1, mentionne Salomé. Puis, ensuite seulement, aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, puis aux disciples à Jérusalem, enfermés. Thomas n'est pas là. 8 jours plus tard, à nouveau, il apparaît aux disciples, à Jérusalem toujours, mais Thomas est là. Puis aux disciples sur les rives du lac de Galilée, à 500 frères à la fois, à l'apôtre Paul. Et tout ne nous est pas donné à connaître. Pendant 40 jours, il est apparu encore à d'autres. Ainsi donc, l'œuvre de la croix du Christ et sa résurrection dominent la scène mondiale, ainsi que l'écrit l'érudit anglican Stephen Neil, que je cite, « Selon la théologie chrétienne de l'histoire, l'histoire avec un grand H, la mort de Christ constitue le point central de l'histoire. C'est vers elle que convergent tous les chemins du passé. Et c'est d'elle que partent toutes les voies d'avenir. » Lu dans un commentaire sur les Galates, je cite, « La croix est le paiement continu et éternel de tous les péchés. Et tout pécheur qui met sa foi dans la croix est pour toujours et continuellement pardonné. » La croix s'avance puissamment et inébranlablement à travers les siècles et sera à jamais la preuve que les hommes ne peuvent se racheter eux-mêmes. Et puis l'hymnologie n'oublie pas l'œuvre de la croix. J'ai pensé à 4 extraits de paroles de chant qui expriment une réponse donnée au message de la croix. Le plus célèbre et connu dans notre monde contemporain est le suivant. « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé à la croix, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. » Et puis la strophe suivante est de Rubin Saïens, prédicateur, poète et chantre de la croix. « Seigneur, je n'apporte rien, ta croix seule est mon soutien. Je viens à toi sans ressources, souillé, je viens à la source, ouverte pour les pécheurs, à rends-moi pur ou je meurs. » Stott, lui encore, cite ces lignes, « Ô mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas pour que ta mort devint ma vie. » Et puis, une autre strophe qui a disparu de beaucoup de recueils de chants actuels, mais les paroles, ces paroles-là ne vieillissent pas. « Rien, ô Jésus, rien que ta grâce, rien que ton sang précieux qui seul mes péchés efface, ne me rend saint, juste, heureux, ne me dit autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. » Je ne peux m'approcher de la fin de ce message sans citer la magnifique affirmation que voici, glanée je ne sais plus où, écrite par je ne sais plus qui, mais je la cite parce que c'est elle qui est importante. Dieu a donné le meilleur du ciel pour le pire de la terre. Et je conclus en soulignant la place ou l'impact du message de la croix de Christ dans la vie de Paul. Il l'exprime dans sa lettre aux Galates, qui est appelée la charte de la liberté chrétienne, mais aussi la lettre de la crucifixion, parce que dans cette lettre se trouve cette mention de l'œuvre de la croix de Christ. Alors j'ai choisi de relever Galates 2, 20, que vous connaissez par cœur et que nous nous efforçons d'appliquer, de pratiquer. Je cite, « La mort du Christ en croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. » Et bien que toute gloire soit attribuée à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.